CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Camarade passé chez me disait quoi, c'est quoi, c'est des acouphènes dont il parle là juste avant? Non, c'est pas ça du tout. Bonjour à tous, CO2 mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer en rond, en tout cas qui essaie, avec Mathias Alléon et Guillaume Roux aujourd'hui à la technique, qui est assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestudia qui réalise cette émission. On va vous parler dans quelques instants de l'agriculture avec réchauffement climatique et agriculture en compagnie de Bernard Seguin. Mais auparavant, une humeur, une petite humeur, tenez, olympique, option ski de fond et carabine en bandoulière, avec un grand bravo bien sûr à nos champions du biathlon qui sortent de l'anonymat une fois tous les 4 ans. Bon, faut pas trop leur en vouloir à nos jeunes sympathiques, parce que les remontées mécaniques ça coûte cher, et donc pour récolter des médailles, ils sont obligés de pousser sur des bâtons et ils s'en sortent très très bien. Donc des chasseurs à ski qui ne font pas de mal à une, c'est comme ça qu'on les aime. Pas le genre à braconner dans la réserve naturelle de l'estuaire de Seine, avec pour unique ambition de raccourcir l'espérance de vie de nos amis à plumes. Non, non, car dans cette réserve, les oiseaux migrateurs continuent d'être tirés avec la complaisance de la préfecture, alors que la chasse est officiellement fermée depuis le 1er février. Aucune réaction de l'État. Ça s'appelle donc une zone de non-droit. Sans parler non plus donc de la bande d'illuminés qui se sont attaqués mardi dans la plaine du Pô au record du monde de la connerie humaine et qui ont vidangé une cuve de pétrole dans la rivière Lambreau, massacrant tout un écosystème de zones humides. Si c'est pas une arme de destruction massive, ça. Le syndrome, à propos de pétrole, donc le syndrome de la malédiction du pétrole, comme on dit dans le Sud, c'est que le bon génie de l'énergie pas chère, hein, celui qui nous a, et ça faut pas l'oublier, libéré de tout un tas de boulot épuisant, c'est aussi la principale source de corruption, conflits et catastrophes écologiques des temps modernes. Prenez le document de Laetitia Moreau qui sera programmé mercredi prochain sur Canal+, et intitulé « Une idée simple et révolutionnaire ». Alors je vous résume l'affaire. Nous sommes dans les années 60. Nous sommes dans l'Équateur, petit pays pas bien riche d'Amérique du Sud, qui accueille à bras ouverts la compagnie pétrolière Texaco. Les gringos débarquent du bateau, réquisitionnent 1,5 million d'hectares de forêt primaire, creusent des puits un peu partout jusqu'à plus soif, et puis s'en vont. Bilan de l'opération pétrodollar, un désastre, l'équivalent de 30 marées noires de déchets toxiques déversés dans les sous-bois, les sols, les rivières, où s'alimentent les peuples indigènes. On a parlé de Tchernobyl, de l'Amazonie. 50 ans après, devinez quoi, les Shadoks, oui, reviennent à la charge pour nous jouer la malédiction du pétrole, le retour dans le parc national Yasuni, réserve mondiale de la biosphère déclarée par l'UNESCO et habitée par des chasseurs-cueilleurs, adeptes, vous savez, du juste ce qu'il faut, et donc tout à fait inadapté à notre société de surconsommation béatifiée. Alors, l'idée simple et révolutionnaire du président Rafael Correa et de son équipe, c'est de laisser le pétrole là où il est. Ils sont dingues, hein, c'est-à-dire sous terre, quitte à solliciter l'aide des pays développés, étant donné que le budget de l'État équatorien dépend pour plus de moitié des revenus du pétrole. Sauf que crise mondiale, pas exactement finie, échec de Copenhague, bref, les compensations carbone, c'est pas exactement dans l'air du temps, et les supporters de la forêt équatorienne tardent à mettre la main au portefeuille. Alors, petit message aux grands décideurs de cette planète, s'il vous plaît, on se bouge, parce que le sort du parc Yasuni et du reste de la planète, ce n'est pas une épreuve qui se joue une fois tous les 4 ans. Coup de chaud sur la planète, c'est le titre de l'ouvrage qui est signé Bernard Seguin aux éditions De La Chaux et Niestlé. Bernard Seguin qui est ingénieur agronome, directeur de recherche à l'INRA, qui est à Avignon. On remercie nos amis de Radio France de Vaucluse qui vous accueillent. Bernard Seguin, bonjour.
Bonjour Denis Chessou.
Alors vous avez travaillé depuis de très nombreuses années sur ce thème-là. C'est vrai que ça date pas d'hier pour l'INRA, parce que déjà depuis les années 50, on s'intéressait à cette notion de réchauffement climatique et d'agriculture. Peut-être juste avant de rentrer tout à l'heure vraiment dans le vif du sujet, l'agriculture subit-elle déjà donc les effets du réchauffement ?
La réponse est clairement oui, en tout cas pour certaines régions, et en particulier la France. Depuis une trentaine d'années, on a pu voir des signes du réchauffement. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à séparer ce réchauffement moyen de la variabilité du climat qui reste très forte et qui fait que d'une année sur l'autre, on peut avoir de fortes variations. Donc il faut prendre pas mal de recul. et par rapport aux signes qu'on a pu qui sont apparus dans les années 90, en gros, il a fallu peut-être 10, 20 ans de recul pour pouvoir vraiment s'apercevoir que c'était quelque chose de significatif. Alors, qu'est-ce qu'on a pu observer? Ben, d'abord, des observations sur ce qu'on appelle la phénologie, c'est-à-dire le calendrier des plantes et des cultures, mmh. et un certain nombre de stades, donc certains qui parlent facilement pour l'observateur moyen, les dates de floraison des arbres fruitiers, par exemple, des agriculteurs nous avaient signalé au début des années 2000 qu'il y avait de plus en plus d'années précoces, et bon, nous-mêmes, on avait des doutes sur une observation qui est pas évidente si on se réfère pas à des séries bien constituées, et puis on a constitué effectivement des séries avec des données observées sur les vergers de l'INRA, mais aussi des stations expérimentales des professionnels. Et clairement, on a vu qu'il y avait une avancée de pratiquement tous les stades d'une quinzaine de jours.
Donc là,
une fois, la variabilité peut faire que certaines années sont plus précoces ou plus tardives. Mais en gros, il y a une tendance indiscutable depuis la fin des années 90. Ça, c'était une première observation. Ça a été complété quelques années après par les observations sur les dates de vendange, qui, là aussi, ont avancé de peut-être 15 jours, 3 semaines. Et petit à petit, cette observation, on a pu voir qu'elle était générale sur tous les vignobles, et tous les viticulteurs l'ont observée, la reconnaissent. Et aller aussi jusqu'aux dates des moissons, un peu partout en France, y compris dans les massifs montagneux. Je souriais en attendant l'allusion à l'équipe de France de biathlon, parce que je connais bien le Jura du Sud et des personnes qui courent dans le biathlon. Ouais. Bon, il y en a aussi qui sont agriculteurs et qui m'ont confirmé il n'y a pas longtemps l'avancée des moissons. Avant, c'était le fin août et maintenant, c'est plutôt début août.
Alors Bernard Seguin, donc, là, vous parlez de cette agriculture qui est touchée par le réchauffement. Il y a aussi l'agriculture qui est acteur de la modification du climat dans le monde. Alors ça, vous en parlez aussi dans votre livre, mais on va être plutôt sur la première partie. Je ne vais pas vous présenter Jean-Marie Pelt, que vous connaissez, bien évidemment.
Voilà. Bien évidemment.
Oui. Et donc, on va continuer à feuilleter son livre tout de suite, Les dons précieux de la nature. Et donc, il développe un certain nombre de thèmes, dont celui des prairies. Alors, ça nous intéresse bien évidemment aujourd'hui. Alors Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Jean-Marie, on va prendre nos bottes, on va aller non pas dans votre jardin, mais dans une prairie. Pourquoi? Et racontez-nous donc les fonctions des prairies.
Ben d'abord, les prairies n'existaient pas sous la forme que nous leur connaissons il y a très longtemps. Elles ont été très largement consécutives à l'élevage bovin. C'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que l'écologie n'échappe pas aux lois universelles de la vie en société. Et les écologistes, comme les scientifiques, comme les politiques, comme tout le monde, annoncent des choses qui paraissent une évidence absolue et que personne ne conteste. Alors il y a une loi de l'écologie que personne ne conteste jamais et qui dit ceci: un milieu est d'autant plus productif et qu'il a une plus forte biodiversité. Oui. Ça, c'est un dogme. Alors, ce dogme, on l'a vérifié sur des prairies. On a étudié la production en foin, et aussi en racines, donc en plantes, de toute une collection de prairies, sur 8 sites, dans toute l'Europe, et on a fait un constat, c'est que plus il y avait d'espèces dans la prairie, plus il y avait de foin. Donc c'était vrai. Et alors, on a trouvé là un argument majeur pour dire, ben voilà, c'était bien ce qu'on pensait, c'est que plus il y a d'espèces ensemble, plus la biodiversité est grande, plus la production est forte. Mmh. Ensuite, on a fait des essais aux États-Unis qui sont très intéressants. On a fabriqué des prairies, c'est-à-dire qu'on a semé des graines, d'abord d'une espèce, puis deux espèces, puis trois, puis quatre, puis cinq, jusqu'à 32. Et on s'est aperçu que la productivité augmentait au fur et à mesure que le nombre d'espèces était plus grand. Et que bizarrement, quand on était à 12 espèces, on avait un maximal de production qui n'augmentait plus quand on passait de 12 à 15, de 15 à 20, de 20 à 30, de 30 à 32, ça bougeait plus.
Ah, d'accord. Donc, la théorie commence vaciller un peu.
La théorie vacille un peu. Et c'est à partir de là que s'est engagée une réflexion sur le pourquoi. Que se passe-t-il vraiment ? Et une notion nouvelle est apparue, qui était assez étrangère à l'écologie des premiers jours, c'est que chaque plante a une fonction qui lui est propre. Telle plante a besoin de beaucoup de soleil, Telle autre a besoin, au contraire, de vivre à l'ombre de celle qui a besoin de beaucoup de soleil. Et donc, lorsqu'elles sont nombreuses et diverses, toutes ces fonctions s'additionnent et le milieu est complètement exploité. Mmh. On comprend ça très bien. Mais quand le milieu est complètement exploité, si vous en rajoutez d'autres, ça change plus rien.
Oui.
Parce que les ressources sont déjà captées.
Donc, il y a une espèce de redondance.
Alors, c'est une idée très forte, c'est qu'il y a une espèce de redondance, et qu'une fois que toutes les fonctions sont assumées et que le milieu est complètement utilisé à fond, après, il n'y a plus d'augmentation de la productivité parallèlement au nombre d'espèces, de sorte que l'idée devient celle-ci. C'est pas tellement le nombre d'espèces qui compte, c'est le nombre de fonctions qui sont assurées. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que la question de la biodiversité change alors d'image et devient celle-ci à partir de combien de pertes les fonctions ne sont plus assumées. Oui. S'il y a une espèce qui part, ben la nature va réagir en mettant à la place une autre espèce qui aura la même fonction. Donc elle va boucher le trou. Mais à partir de quand les trous ne se bougent plus, ça on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'en matière de biodiversité, il faut appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire qu'un écosystème peut se déséquilibrer complètement et s'effondrer quand il n'y a plus de redondance possible. Alors, quel est le degré de redondance? Alors, à mon avis, ça c'est moi qui parle, hein, je serai critiqué sur ce plan, il est très grand. Je pense qu'il y a une gratuité dans la nature. Il y a cette incroyable prolifération des individus et des espèces qui est quand même la marque de la vie. La vie est forte et puissante. Et il y a des remplacements qui peuvent se faire. Alors évidemment, bon, si on perd l'ours polaire, on va le voir et on sera ému et on va défendre l'ours polaire. Bon, je suis ceux qui défendent l'ours polaire. Mais si on perd une toute petite plante comme ça dans un écosystème, dans une prairie qui a déjà beaucoup d'espèces, il ne se passera rien de nouveau parce qu'une autre plante fera le même boulot qu'elle a fait elle-même. Protégeons la biodiversité, mais avec un certain optimisme dans la manière de la regarder. Il y a des milieux qui sont très productifs et très pauvres en espèces. Le prototype de ces milieux, ce sont les mangroves. Dans les mangroves, il y a, disons, 3-4 espèces, les palétuviers, hein, pas beaucoup d'espèces, mais il y a une productivité très forte. Si vous marchez dans une mangrove, vous êtes comme dans une forêt, vous êtes noyé dans la végétation, il y a une productivité très grande, vous avez les pieds dans l'eau, puisque la mangrove pousse sur le fond de la mer, donc au niveau du littoral. Et là, la règle de la productivité qui augmente avec la biodiversité ne s'applique pas. On a une productivité très importante avec une biodiversité relativement pauvre. Alors, je tire une conclusion de ça. Il ne faut pas répéter tout le temps la même chose. Moi, je suis quand même frappé qu'il y a si peu de réflexion. Tout d'un coup, les médias partent sur quelque chose et bam, ça part, boum. Par exemple, voilà une biodiversité effroyable dans le domaine des virus. H1N1, et c'est la fin du monde. On ne parle plus que de ça. Tout le monde dit que c'est épouvantable, il faut se faire vacciner, on va mourir. Mais écoutez, Denis...
Si vous aviez la gentillesse d'avoir 30 millions de piqûres sur votre corps, parce qu'on ne sait plus quoi en faire des vaccins. Donc,
Non, mais c'est ça. Non, mais écoutez, c'est très drôle, parce que en une seule journée, il meurt deux fois plus de gens du cancer qu'il y en est mort de la grippe H1N1 depuis qu'on en parle.
Oui.
Ça, c'est quand même un paradoxe extraordinaire. C'est pour ça que les emballements médiatiques, les idées toutes faites, la pensée unique, le politiquement correct, tout ça... Ah non, tout ça, c'est pas mon truc. Je suis pas comme ça, quoi. Je suis un peu différent. C'est dommage. Des fois, je voudrais être comme tout le monde. pas trop.
Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, Jean-Marie. Et c'est pour ça que vous avez toute votre place sur France Inter et dans cette émission. Donc, c'est O2, mon amour. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous renvoie cette histoire aussi, vous la raconter dans les dons précieux de la nature. Et on se retrouvera très prochainement pour parler donc de biodiversité avec vous. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Voilà, restez comme vous êtes, hein, donc différent.
Tombé du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur de ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages, comment peut-on
belle aux louanges, chassée par les anges du paradis originel, tombée du sommeil, perdu connaissance, retombée en enfance, au pied du grand.
Vous l'avez reconnu, bien sûr. Donc, CO2, mon amour, en direct avec Bernard Seguin, qui a écrit Coup de chaud sur l'agriculture. Alors, on a plein de questions, hein, en ce qui concerne donc les plantes de demain. Comment ça va se passer, la répartition entre le nord et le sud? Quels vont être les gagnants? Quels vont être les perdants? Comment on va pouvoir s'adapter? Les variétés vont-elles pouvoir s'adapter? Réchauffement climatique et agriculture aujourd'hui. Donc, agriculture qui est au premier rang des activités humaines, hein, on le sait, que le changement climatique va impacter directement, mais vous avez donc ça avec l'évolution, on va dire, moyenne des facteurs climatiques, mais vous avez aussi les accidents climatiques, les gels, les canicules, les sécheresses. Ça a toujours été un climat qui est en marche, cette affaire-là, Bernard Seguin. Le climat, l'agriculture, c'est un très vieux couple.
Oui, bien sûr. En fait, l'agriculture, en gros, a dû être inventée il y a à peu près 8000, 10000 ans dans le Moyen-Orient, et donc sans doute à la faveur de conditions climatiques favorables. Et depuis, on le sait tous, le climat a fluctué et a souvent provoqué son lot de désolation, sans remonter trop loin, si on se réfère à l'histoire du dernier millénaire, des ouvrages tels que ceux d'Emmanuel Leroy-Ladurie et puis des travaux postérieurs ont bien montré la succession incroyable de période favorable, ensuite de disette qui provoquait des famines tout à fait considérables de quelques millions de personnes dans le royaume de France.
Et une des raisons de la Révolution française, j'ai bien une des raisons, parce qu'évidemment c'était pas la seule, mais c'était aussi effectivement cette famine en 1789.
C'est assez discuté, voilà.
Bon, oui, je pense que je dis une des raisons.
Oui, tout à fait, mais il y a toujours des événements climatiques. Ça peut même être tout simplement aussi sur la production de vin à l'époque aussi, des dits royaux qui voulaient protéger la production de certaines régions pour l'alimentation en vin de Paris, qui a un peu échauffé les esprits aussi de la population, indépendamment de la famine. Mais il y a toujours eu évidemment cet aspect-là. Alors les famines ont continué, même au XXe siècle, il y a des famines effroyables. Il y a toujours un mélange de faits climatiques et de faits politiques ou sociaux, et suivant la spécialité des uns ou des autres, on les attribue à tel ou tel facteur. Mais l'agriculture reste, même à l'heure actuelle, quels que soient les progrès de la technologie, très dépendante du climat. Et c'est ça qui fait qu'on peut dire, sans trop de crainte de se tromper, que l'agriculture va être sensible au réchauffement climatique, avec des facettes très variables suivant les régions et les types de production.
Et pourtant, bon, on arrive à l'agriculture moderne, et là on se dit qu'on est capable quand même de faire fi de ces aléas climatiques. Les pays développés savent à peu près résister aujourd'hui au climat. Les pays pauvres restent totalement tributaire aussi de cette affaire-là. On a vu comment la nature donc exprimait ces différents changements, mais là, je vous le disais, on va avoir des gagnants et des perdants. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez pu vous observer? Quels sont les constats que vous avez faits entre les pays du Nord, les pays du Sud? Est-ce que ce sont les pays du Sud qui vont trinquer davantage avec cette notion de réchauffement climatique?
Oui, peut-être juste avant d'y venir, un mot. Quand vous dites les agricultures des pays développés résistent mieux au climat, à la limite, c'est pas forcément vrai. Les sécheresses, la grêle, le gel, quels que soient les progrès techniques, quand ils sont effectifs sur de très larges surfaces, l'agriculture est très liée. Et on voit bien, ces dernières années, que ce soit la production de blé en Australie, même aux États-Unis, on est encore très tributaire à l'échelle mondiale du climat. Ceci étant dit, par rapport à la question posée sur le futur, de façon assez simple mais réaliste, il y a le partage entre le Nord et le Sud, avec un grand N et un grand S. Le Nord, d'un certain côté, va pouvoir tirer parti d'un bonus qui est donné, c'est vrai ça aussi au Sud, mais par l'augmentation du gaz carbonique, la concentration du gaz carbonique, qui a tendance à stimuler la photosynthèse, comme c'est fait dans des productions sous serre. Et il y a un bonus de production qui est lié à ça, c'est un peu découplé du réchauffement, mais c'est à la base de ça. Donc ça, c'est un aspect dont on doit tenir compte, mais qui derrière peut être aussi amplifié en termes d'effets positifs par le fait qu'avoir 1 ou 2 degrés de plus dans beaucoup de situations, ça peut être relativement positif. Tant que derrière, il n'y a pas forcément d'atteinte par exemple, la détérioration des conditions climatiques. Au niveau de l'humidité du sol, donc de la sécheresse, de l'apport par la pluie. Dans les pays du Sud, en général, et ça, on peut le comprendre, un climat déjà chaud, de 2 degrés, 3 degrés de plus, ça n'est pas une bonne chose, d'autant plus que dans beaucoup de pays, ça va là aussi s'accompagner de cette tendance à l'intensification de la sécheresse. C'est ce qu'on redoute autour de la Méditerranée en général. Donc, partage Nord-Sud, et au niveau du territoire français, on retrouve à peu près ce schéma général, sauf que les évolutions des modèles climatiques plus récemment, les modèles proposés par Météo France, par exemple, de plus en plus précis en termes de localisation spatiale, font que même pour le Nord ou même l'Ouest, la Bretagne, Poitou-Charentes, à terme de la fin du siècle, on peut redouter une accentuation des conditions de sécheresse. Donc, en gros, bénéfice pour le Nord et effet néfaste pour le Sud, avec des marges, des limites qui fluctuent et qui ne sont pas encore parfaitement connues.
D'accord, donc ça veut dire que c'est encore les plus pauvres qui malheureusement vont trinquer. Hein. C'est un peu
ce qui est tout à fait désolant dans ces perspectives, effectivement. C'est la loi du... Oui, l'embêtement maximum, ouais, quoi, qui ça, continue.
Ouais. L'emmerdement maximum, comme on dit.
Oui, je n'osais pas le dire, mais
oui,
voilà.
Ça, tout le monde l'avait
compris. Et appliqué à la production agricole et nourriture, bon, mais voilà, c'est bien ça, l'esprit.
Vous partez quand même sur une hypothèse, on va dire, de 2 à 3 degrés, et vous dites que ce sera sans doute plutôt du côté de 3 degrés que de 2 degrés de réchauffement. Là, on n'est pas dans le côté origine humaine, pas origine humaine. Même ceux qui sont climato-sceptiques, de façon, constatent que c'est en train de se réchauffer. Donc là, peu importe pour notre débat, que l'on comprenne bien. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez un degré, je ne parle pas de météo, mais bien de climat supplémentaire, c'est comme si on avait une remontée à peu près de 200 km d'une bande végétale vers le nord. Hein, c'est à peu près ça.
En tout cas, au niveau de la France.
Voilà, au niveau de la France, pardon.
Voilà, au niveau de la France. Ça, c'est tout simplement la climatologie de la France qui est étudiée par Météo France. Une température moyenne annuelle, on est à peu près à l'heure actuelle 15 degrés au niveau du sud de la France, enfin d'Avignon précisément, au sud. Et bon, on va tomber à 10 degrés en température moyenne annuelle dans le nord de la France. Donc à peu près 5 degrés pour la traversée de la France entière. Et avec ça, vous avez 200 kilomètres effectivement. Et le réchauffement récent sur les 30 dernières années a fait 1 degré, parfois un peu plus. Donc on peut penser qu'en termes de potentialité des cultures, à l'heure actuelle, il y a déjà eu une évolution d'à peu près 200 km qu'on voit pas forcément parce que les plantes ont quand même une certaine plasticité, les cultures. Mais c'est le début d'une tendance qui, si on allait jusqu'aux 3 degrés, commencerait à être significative.
On voit très bien dans la mer donc le cabillaud qui est remonté. On voit la chenille processionnaire qui maintenant donc a dépassé Paris. On voit le hêtre aussi donc qui remonte. On voit des animaux qui remontent de plus en plus en altitude. Donc c'est pareil aussi pour la végétation. Et alors je sais pas, là je grossis le trait volontairement, mais ça veut dire qu'on pourra peut-être avoir des kiwis du côté des Ardennes. Est-ce que le Olivier, on va le retrouver à Reims, vous voyez.
Oui, bien sûr, c'est la question. Alors après, en tant que scientifique, on a du mal à préciser ces choses-là parce que on peut dire des choses à la légère, comme vous l'avez dit sur le kiwi, sur la question est souvent posée sur l'olivier. Et on n'a pas forcément des études suffisamment précises par rapport à ça. Mais prenons le cas de l'olivier, par exemple, qui est assez emblématique. On sait que la limite nord de sa culture, qui coïncide avec la limite du chêne vert et qui est attribuée à la région méditerranéenne, bon, c'est aux alentours de Nyons, Montélimar, etc. Et en termes de, si on se réfère uniquement à la température, on peut penser qu'avec 3 degrés, des oliviers pourraient donner une production jusqu'à Dijon, par exemple, dans la vallée du Rhône, ou le long de la vallée de la Garonne, repartir aussi vers l'océan. La question qui est derrière, c'est quel type de production oléicole on aurait. Là, on rejoint la notion de qualité. Et parce que la température, c'est une chose, mais l'ensoleillement, c'est autre chose, l'aspect hydrique aussi.
Le terroir,
donc, de l'olivier, oui, mais quelle culture? Et on retombe à chaque fois sur cette interrogation, sachant que lorsqu'il s'agit de production, simplement en rendement, si on prend le blé, le maïs, etc., les adaptations sont plus larges. En termes de qualité, c'est moins évident. Alors, un autre exemple à l'extrême, mais là, c'est en prenant le réchauffement de 5-6 degrés qui conduirait, lui, à un véritable bouleversement. On va vers la Lorraine, on peut se dire qu'on pourrait faire du tournesol, mais du coup, la Mirabelle serait sans doute en grand danger.
Oui. Alors, on va voir justement avec vous dans quelques instants, on va parler des céréales, donc de ce qui nous nourrit, quelles sont les adaptations, quel est le rôle de la science, des techniques, qu'est-ce que l'on peut faire. Le rôle de l'eau, on a très bien compris, hein, c'est aussi donc la clé de compréhension de cette affaire-là, avec la pluviométrie, avec l'évaporation des sols. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout d'abord Mickey Green, vert bien sûr, Through Love, et puis on vous retrouve et on ira faire un petit tour du côté d'un film qui est très bien, qui s'appelle Le Temps des Grâces.
Does it feel as chill for you as it does for me too? You told me that it could be, but I think that I might know what could happen before. Addicted personalities always looking for more. True love, I love it till it's quite up. True love, I love it till it's quite up. True love, I love it till it's quite up.
Une génération qui fume plus, hein. Une génération de diététiciens, de juges, d'écolos, font chier cette génération.
CO2 mon amour, sur France Inter.
En compagnie de Bernard Seguin, toujours avec ce coup de chaud sur l'agriculture. On le sait, 1 milliard d'habitants aujourd'hui souffrent de la faim sur les 6,7 milliards que nous sommes. Nous serons environ 9 milliards en 2050, ces chiffres-là, on vous les mouline, mais je crois que c'est toujours bon de les rappeler. Donc il va falloir envisager un doublement de la production, produire plus et mieux avec 3 fois moins de sol, d'eau et de biodiversité. Et puis aussi, sûrement passer, mais là c'est un autre sujet, même s'il est lié, d'être davantage des protéines végétales que des protéines animales. On a compris que les pays du Nord peuvent y gagner. Alors entre 5 et 20% de plus de rendement et ceux du Sud vont être les principales victimes. Mais il y a quand même des limites à cette affaire-là, Bernard Seguin. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il va y avoir des effets positifs peut-être pour le Nord avec l'effet de stimulation de la photosynthèse dont vous nous avez parlé. Mais il va aussi y avoir des moins parce que apparition des risques de chute de productivité s'il y a des températures qui sont trop élevées. Il y a des seuils, et ça on s'en est rendu compte aussi lors des différentes canicules en 2003. Il y a des limites à cette affaire.
Tout à fait, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas une réponse simple, contrairement à d'autres facteurs qui vont être mis en jeu par, l'augmentation des températures. L'élévation du niveau de la mer, ça n'est pas simple non plus dans le détail au niveau de telle ou telle côte, mais en gros les effets vont dans le même sens, la fonte des glaciers, etc. L'agriculture, il y a des conditions dans lesquelles ça peut être positif si on prend en compte la production ou même la qualité, et puis d'autres où ça peut être très fortement négatif, et il n'y a pas une figure unique. Donc c'est ce que vous avez évoqué, d'un côté des effets qui peuvent être positifs par rapport à une évolution moyenne des conditions, à condition que ce soit suivi d'une adaptation, on va peut-être en reparler après.
Bien sûr.
Et puis il y a le problème de ces seuils de température excessive en particulier. On connaît assez mal en fait les limites des températures de l'ordre de 40-42 degrés. Et à l'heure actuelle, c'est une des inquiétudes pour le futur, la fréquence d'apparition des canicules croisée avec celle des sécheresses si dans certaines régions géographiques autour de la Méditerranée, mais aussi la Californie, mais aussi l'Australie, mais aussi une bonne partie de l'Afrique du Sud. Les sécheresses deviennent encore plus importantes que dans le passé. Et donc on le voit très bien avec les situations que l'on a connues ces dernières années. Prenons l'exemple de l'Australie. L'agriculture australienne a été très très violemment secouée par un nombre d'années, 7, 8, il y a peut-être eu quelques rémissions, mais avec une sécheresse très forte et des températures qui ont pu atteindre 47 degrés, par exemple, autour d'Adélaïde, dans une zone de production de vignobles. Et là, l'effet est immédiat. Et donc la question, par exemple, sur l'Australie, c'est quel avenir ? Est-ce que on a déjà là les effets brutaux concentrés du réchauffement ? Est-ce que c'est une période où la variabilité l'a rendu plus sensible ? Mais en tout cas, ça montre bien l'influence possible de cette détérioration dans certaines conditions, des conditions climatiques.
Et en 2030, on s'en est rendu compte, parce que là, des collègues à vous ont constaté cette affaire-là. C'est-à-dire qu'au départ de la canicule, ça a boosté, bien sûr, la végétation. On s'est dit, ah bah oui, ça c'est bien, parce que c'est meilleur. Et puis après, ça s'est complètement écroulé. C'est-à-dire que donc, il y a eu un effet de seuil là, qui a joué. Il y a eu une petite bascule. Hein, donc,
Oui, alors la canicule était liée aussi à une sécheresse, pas forcément la plus forte des sécheresses, mais enfin une sécheresse très, très forte. Et oui, alors on voit bien aussi l'influence du positionnement de l'accident climatique au cours de la saison. Le blé a été assez peu affecté finalement parce que quand la canicule est arrivée, il y a déjà longtemps qu'il était récolté.
Mais le fourrage, en revanche,
alors le fourrage, bon, c'est et on revient aux prairies dont parlait Jean-Marie Pelt, c'est sans doute la production la plus sensible aux conséquences de la canicule sécheresse surtout. Et bon, ça s'est répété d'ailleurs plusieurs années de suite. Les éleveurs ont eu plusieurs années. Il y a eu 2005-2006 dans lesquelles il y a eu des chutes de production de 30 à 50%. Là, donc, c'est vraiment des chiffres très importants quand c'est moyenné à l'échelle d'une région. Oui.
Alors Bernard Seguin, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour avec Dominique Marchais qui vient de réaliser un film qui s'appelle Le Temps des Grâces. Donc c'est un documentaire, c'est un long métrage avec donc un homme qui a grandi en Eure-et-Loir, département céréalier, des grands-parents agriculteurs qui faisaient du négoce en grains. Alors il y a une part de nostalgie mais qui n'est pas du tout dirigée contre le présent et l'avenir. C'est ça qui est très intéressant aussi dans ce film. Et là en fait on est à la fois dans notre sujet mais il embrasse beaucoup plus de choses. Il parle de l'histoire, de la science, de l'urbanisme, de l'économie, de l'agronomie bien sûr. Et donc comme ce film-là a un peu quand même besoin d'être aidé parce qu'il ne va pas passer dans 150 salles et qu'il est très bien, et ben j'ai demandé à Dominique Marchais quel était le point de départ de ce film.
Le point de départ, ça a été le paysage, constater les métamorphoses du paysage, et puis l'enfrichement dans le sud, dans les régions de moyenne montagne, tout ça m'inquiétait, m'alarmait année après année. Il y a toujours cette inquiétude de se dire que ceux qui nous suivront n'auront peut-être pas cette chance-là d'avoir une exploitation agricole pas très loin de chez eux, de pouvoir avoir des animaux.
Et lorsque l'on parle du paysage, il est évident que lorsqu'on est le nez complètement dedans, quand on est agriculteur, on ne le voit pratiquement pas changer. Et exactement. Pourtant, ça bouge en permanence.
Hein. Exactement. Oui. Je me souviens d'une formule de Daniel Calam, qui est éleveur dans le bocage du Bois Chaud, et qui prenait l'image du voleur chinois. Il dit « voilà, nous, c'est comme le voleur chinois, on déplace un peu l'objet, on le déplace encore un petit peu, puis à un moment l'objet a disparu, on n'a pas vu comment. Mmh. » Et voilà, le bocage c'est pareil, on rogne un peu de haie par ici, un peu par là, et puis tout d'un coup c'est la plaine et on ne l'a pas vu venir. Alors. Donc ce qui était très intéressant, c'est qu'il dit on a besoin du point de vue de l'autre pour s'en rendre compte. On comprend un peu mieux quand, avec le Parisien, originaire d'ici, qui revient tous les ans à la Toussaint et qui dit « oula, ça a bougé ».
Je vous propose de retrouver Daniel Calam, qui est éleveur, qui est aussi maire d'une commune dans le département de l'Indre. Et là, donc, il nous parle très bien du bocage.
Les gens qui me disent que le bocage il est indispensable pour faire des vaches limousines, ils ont tout faux, ils ont qu'à aller voir ailleurs, il se fait des vaches en pays ouvert. Hein. Donc ça marche. Et, par contre, au bout d'un moment, on se dit, c'est quand même un paysage extraordinaire qui est magnifique. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est pas un intérêt tellement agronomique ou pour l'élevage. C'est le paysage. C'est le paysage comment qu'il a été modelé depuis des siècles par des paysans. Quoi. Ça, moi, je trouve ça beau. Quoi. Et puis, pour tous ceux qui étaient là avant nous, c'était une production agricole. Et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre parce que nous, paysans du XXe siècle, enfin la deuxième partie du XXe siècle, c'était déjà plus une production agricole. la justification n'est plus là. Et alors il faut essayer d'y retrouver une autre justification, mais c'est là que c'est pas facile.
On sent très bien toutes les, à la fois les tensions, les contradictions que doivent subir les agriculteurs, qui ont formidablement rempli leur boulot, on va le rappeler, après-guerre. Et puis après, on a continué sur la voie du productivisme, même lorsque la France, entre guillemets, était nourrie. Et on sent bien que ces gens-là sont souvent un peu coincés en permanence. Donc là aussi, il y a un regard qui est tout à fait intéressant et très touchant.
Moi, ça m'intéressait de revenir sur cette période des Trente Glorieuses, et particulièrement des années 50-60, pour comprendre quel était l'horizon de cette génération d'agriculteurs qui a accompli cette modernisation en un temps très bref.
Oui.
Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme. Ceci dans un consensus général de toute la société sur ces nouvelles techniques, sur tous les produits issus de l'agrochimie, de la pétrochimie, je veux dire. Bon, aujourd'hui, cette génération est vraiment stigmatisée, quoi. On dit voilà, c'est eux qui ont tout cassé. Bon, pour moi, c'est très insuffisant. Il faut se remettre dans le contexte, et puis essayer de comprendre effectivement à quel moment il y a peut-être eu une erreur d'aiguillage. Et ce qui ressort toujours des témoignages, c'est que c'est le début des années 70, une fois que les premiers objectifs de la PAC ont été atteints les uns après les autres, l'autosuffisance en céréales, en sucre, en viande bovine. Alors là, il aurait fallu changer d'incitation, on l'a pas fait.
On va écouter donc cet agriculteur dans l'Yonne qui nous parle de ce qui est devenu en fait un désert biologique.
Là, vous avez une cinquantaine d'hectares sur cette parcelle-là, tout en bleu. Mais au niveau travail, on ne peut pas comparer le travail qu'on a maintenant avec ce qu'on avait avant, quoi. On va beaucoup plus vite. Ça, c'est... Au niveau économique, bon, c'est sûr que c'est très bien. Après, au niveau de la faune, c'est beaucoup moins bien. Ça, c'est sûr. Parce qu'une perdrix, elle ne va pas aller faire son nid au milieu du champ, là. Non, c'est pas possible pour elle. C'est un désert complet pour elle, ça. Hein. Donc elle va se tenir sur les bordures. Là, une personne, maintenant, sur des parcelles comme ça, elle peut faire 250 hectares à une seule personne, quoi. C'est possible. Avant leur membrement, il ne fallait pas s'amuser, quoi. Quand ils étaient dans les moments des semailles ou des traitements... Fallait courir sur les parcelles, on sillonnait toute la campagne avec le tracteur. Aujourd'hui, on est toujours pour l'économie. Les gens, ils vivent même plus dans leur ferme, la famille est en ville. Puis les gens qui s'occupent de la ferme vont travailler à la ferme les jours qu'il y a besoin d'aller travailler, quoi.
Ces paysages ont beaucoup changé et il y a aussi donc le phénomène de l'urbanisation. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Parce qu'on voit maintenant de plus en plus donc les surfaces qui se réduisent.
Oui, on est dans un paradoxe parce qu'on sait bien qu'au niveau mondial, il faudra produire plus à l'échéance 2050, 10 milliards d'habitants. Et dans le même temps, les surfaces agricoles diminuent. Et en plus, chez nous, en Europe, si on veut avoir une agriculture qui soit un peu plus de l'écologie appliquée, il faudra certainement accepter des rendements un peu moindres. Donc comment concilier tout ça? Donc effectivement, est-ce qu'il faut sanctuariser le foncier agricole? On en parle de plus en plus. Et alors il y a Henri Baron dans le film qui a été maire, qui a été président de chambre d'agriculture en Loire-Atlantique, et qui a cette formule que j'aime beaucoup, puisqu'il dit que aujourd'hui à peu près tout le monde est conscient du problème, mais tout le monde continue à faire comme avant. Et il dit il faut peut-être avancer par étapes.
On n'a pas de calendrier, on a toujours le sentiment que c'est tout ou rien. Et ce n'est pas ça, c'est-à-dire que pour que les gens puissent avoir une adhésion, il faut leur dire, écoutez, il y a une première marche, il y a un premier palier qui est là, puis il y a un deuxième palier qui sera atteignable. Voilà. Ça manque beaucoup, mais ce n'est pas que dans le domaine agricole, hein. On constate vraiment en permanence.
Oui, c'est ce que déplorent les agriculteurs en général, c'est un manque de vision sur l'avenir.
Alors on va écouter Marc Dufumier, donc, qui travaille à l'INRA, et qui parle très bien de la bascule qui s'est opérée. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui parle d'avenir.
Depuis le néolithique, jusqu'il y a un siècle et demi, on va dire, en France, Navarre, aux États-Unis ou ailleurs, la sélection des plantes, c'était les agriculteurs qui la faisaient. La rupture, elle commence quand on va confier la sélection à des agronomes et des généticiens. Il faut voir les raisonnements qui ont été les leurs. La planète est de taille réduite. La population augmente. Donc, il faut produire plus à l'unité de surface. Donc on va chercher des variétés et des races animales capables de produire plus à l'unité de surface. Mais pour qu'on ne perde pas trop de temps cette expérimentation et s'assurer très vite que le facteur variétal est bien l'origine d'un accroissement de rendement, eh ben on va sélectionner ces variétés, toutes choses égales par ailleurs. Il ne faudrait pas qu'en faisant nos expériences, on mette du temps à avoir des résultats significatifs, parce qu'un endroit, le rendement, ça a été bouffé par un phacochère, un autre par un insecte, un autre, ça a été attaqué par un champignon et tout. Il ne faudrait pas non plus qu'un endroit, il y ait eu plus de cailloux qu'un autre. Donc il faut tout homogénéiser.
Vers quoi demain on va pouvoir aller? Quelles sont les pistes qui vous semblent intéressantes, vous qui avez ausculté un petit peu tout ce monde-là?
Il y a plein de choses en fait qui émergent. Bon, l'agriculture biologique, ça fait longtemps. Oui. Il y a la biodynamie, surtout en viticulture. Il y a les techniques de semis directs sous couvert, c'est-à-dire tous ces gens qui renoncent au labour et qui ne travaillent plus quasiment qu'avec le semoir. Ça, c'est très exaltant, j'en ai rencontré beaucoup.
En grattant le sol, simplement pour le piquer, pour faire pénétrer les graines.
Justement, ils ne le grattent pas. Le semoir passe une lame comme un cutter. D'accord. Sur lequel on pose les graines et derrière, c'est refermé. Ça fait comme une petite
cicatrice.
Voilà, oui. Cicatrice. Et le sol est toujours couvert. Mmh. Ça, c'est un des grands enjeux de l'agronomie de demain. Il ne faut plus perdre l'énergie lumineuse. Oui. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui pousse. Mmh. Donc, en quelque sorte, on choisit ces mauvaises herbes avec ce système de couvert végétal. Les agriculteurs qui passent à ces techniques-là, donc après avoir abandonné la charrue au fond de la cour, se mettent à voir leur exploitation complètement différemment. Ils pensent verticalité et beaucoup moins horizontalité. Ils vont beaucoup avec la bêche pour voir comment est leur sol. Je me souviens d'un jeune agriculteur dans l'Aube qui m'avait dit, moi, je suis comme un surfeur, je travaille avec des forces qui sont beaucoup plus fortes que moi et qui travaillent mieux que moi. Donc, il dit, les plantes travaillent le sol beaucoup mieux que je ne le ferais moi avec mes outils.
Intéressant aussi ce que nous raconte Patrick Libourel. Alors, lui, il se trouve à Lannuéjol, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très beau, nous sommes dans le département du Gard. Roquefort n'est pas loin, et voici ce que nous raconte cet homme.
Je me mettrai quand même du côté d'une industrie. Et pas d'un artisan. Pourquoi pas d'un artisan? Parce que l'artisan, tel qu'à l'image du consommateur ou du consommateur ou du citadin, c'est le berger avec ses moutons et avec ses moutons et son chien qui va garder son troupeau. Non, c'est pas ça. C'est plus ça. Ça n'existe plus ça. Nous, on est des citoyens comme tout le monde. On veut nos vacances, on veut du temps libre, on veut un cadre de vie, on veut un genre de vie. Donc, il faut un niveau de vie. Donc, ce niveau de vie fait que le prix du lait en Franc-Constant n'ayant pas augmenté, mais on s'est industrialisé pour faire des économies d'échelle. Quoi. Alors c'est sûr que le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un lait pas cher, il veut un fromage pas cher, et il voudrait qu'on traite à la main. Quoi.
Vous faites absolument pas le procès de la modernité hein, dans ce film. On va être obligé de déboucher de toute façon sur autre chose. Qu'on est en tout cas à la fin d'un système, et puis on aura toujours besoin d'agriculteurs, mais ça va être différent, et ça, faut déjà l'accepter, quoi.
Oui, c'est très intéressant parce qu'on a le sentiment que l'agriculture est cause de beaucoup de problèmes, mais qu'elle en est aussi la solution. Il y a beaucoup d'intelligence dans cette profession, parce que ce sont des gens qui sont obligés de composer avec le politique, avec l'environnemental, l'agronomique. Si on prend le temps d'aller voir les agriculteurs, si on passe beaucoup de temps avec eux, on a des discours extrêmement sophistiqués, complexes, sur notre époque.
Voilà donc un film qui embrasse pas mal de problématiques et très intéressant, donc il s'appelle Le Temps des Grâces, il est signé Dominique Marchais. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, vous Bernard Seguin, peut-être pas encore, non?
Le temps, j'aurais peut-être trouvé, mais bon, je ne pense pas qu'il passe à Avignon mais à l'heure actuelle. Mais j'ai vu des critiques dessus, évidemment, ça a retenu mon attention, et en particulier les témoignages que vous avez présentés, parce que le climat, c'est une chose, c'est une toile de fond qui donne des limites, des orientations, mais on sait bien que l'agriculture, que ce soit dans le passé, mais encore plus dans le futur, va dépendre beaucoup de conditions économiques, de déterminants sur les ressources naturelles, sur l'eau, etc., qui vont être finalement les éléments qui vont adapter à ce nouveau climat. Et en premier lieu, le facteur économique, on le voit au-delà du film qui doit peut-être déjà dater de l'année passée ou deux ans, la situation générale de beaucoup d'agriculteurs, vous le savez, c'est considérablement...
Ils sont dans le dur, les pauvres.
Oui, c'est extrêmement dur. Et à l'heure actuelle, le climat, c'est peut-être une préoccupation secondaire. Je crois que l'aspect du changement climatique vient à la fois un peu à long terme, à différentes échelles. Localement, par exemple, un producteur viticole à l'heure actuelle, il se trouve avec une production de très bonne qualité, un degré alcoolique qui commence à lui poser des problèmes. Donc lui le voit très précisément. Les producteurs de betteraves sont très contents du réchauffement. À l'heure actuelle, on a une production qui a monté. Les producteurs de céréales commencent à avoir des problèmes. Le rendement commence à tasser. Donc ça, c'est des éléments qui jouent. Mais si on se projette un peu plus loin, au-delà des aspects locaux, il y a d'un côté le fait qu'au niveau d'un territoire comme la France, par exemple, si on a un réchauffement limité à 2 ou 3 degrés, en gros, Le climat lui-même permettra peut-être de s'adapter, de garder.
Alors derrière ce mot adaptation, parce que c'est vrai que très longtemps on l'a écarté, c'était synonyme d'attitude défaitiste, etc.
Absolument de renoncement.
Maintenant, on va pas vu les résultats de Copenhague et ce qui risque d'arriver, on n'a pas forcément. Tous les intérêts, on les comprend très bien. Cette histoire de réchauffement climatique, va falloir quand même drôlement s'y faire parce que c'est pas gagné du tout. Bon, mais donc on parle d'adaptation. Maintenant, où est-ce que l'on en est avec la recherche? Est-ce qu'on travaille sur de nouvelles céréales? Allons-y, lançons ce gros mot d'OGM aussi. Pourquoi pas? Enfin, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Oui, on en est au point où depuis quelques années maintenant, les travaux ont commencé. C'est vrai. De toute façon, Copenhague ou pas, ce qui se jouait à Copenhague et ce qui se joue encore dans le futur, faut espérer, c'est est-ce qu'on va vers un monde qui se réchauffe de 3 degrés ou de 6 degrés,
c'est ça. Hein,
mais pour 2050.
En fonction de nos modes de vie, une fois de plus, parce que l'agriculture interroge aussi les systèmes de production et de consommation et donc de nos modes de vie, hein, de ce qu'on a dans l'assiette.
Bien sûr, parce que l'alimentation conditionne directement ce que produisent les agriculteurs. Les agriculteurs, ils produisent des choses qu'on va manger, donc ça c'est sûr. Alors pour en revenir à votre question, l'adaptation, oui, il y a déjà par exemple au niveau des abrutiers ou de la viticulture des actions pour commencer à sélectionner, tester soit de nouvelles variétés, soit des clones à l'intérieur des variétés. Du côté des céréales, l'analyse des rendements récents du blé, par exemple, fait qu'on s'aperçoit qu'il faudrait arriver à la fois avoir une période de culture qui reste longue malgré le fait que le réchauffement va la raccourcir. Et en même temps, il faudrait arriver à passer avant la période de sécheresse ou de température un petit peu élevée qui se produit au mois de mai. Donc il y a des passages entre ces compromis qui font que les sélectionneurs commencent à réfléchir sur des pistes. L'irrigation,
Le maïs que nous connaissons, le maïs très, très symbolique, on va dire, dans mon sud-ouest, où ça a été recouvert de maïs irrigué. Alors, ils ont diminué, faut bien le dire, ils ont déjà diminué.
Oui, ils ont diminué après 2004-2005. Il y a eu une diminution, une année de 9% des surfaces irriguées, l'année d'après de 7%. Donc c'est une forme d'adaptation. Mais en même temps, l'adaptation, on peut penser aussi à avoir des cultures alternatives au maïs, comme le sorgho. C'est prôné par l'INRA, par exemple, parce que c'est plus résistant à la sécheresse. Il y a des problèmes au niveau des filières. Les agriculteurs nous disent c'est bien gentil, mais on ne trouve pas de débouchés. Mais tout ça évolue. Oui, les travaux sur l'adaptation commencent. Alors OGM, en un mot, par rapport à l'aspect purement climatique, peut-être dans certains cas, on peut trouver des gènes qui permettent de passer au-delà de, en dessous de certains seuils de température extrême. La sécheresse, c'est un des grands espoirs. Les agronomes ne voient en fait pas tellement comment on pourrait trouver des plantes qui soient capables de produire convenablement avec 300 ou 400 mm de pluie, tout simplement parce que photosynthèse et transpiration, ça passe par les mêmes petits orifices qui sont les stomates, et que si vous réduisez la transpiration, vous réduisez aussi la photosynthèse. Donc c'est peut-être qu'il y a une possibilité, indépendamment de toutes les questions qu'on peut mettre autour des OGM, et c'est loin d'être le miracle annoncé pour l'Afrique, etc.
Merci à vous Bernard Seguin. Si vous souhaitez vraiment en savoir plus, chez Delachaux et Niestlé, coup de chaud sur l'agriculture. Merci Emmanuel Perret qui était à Radio France Vaucluse, à Mathias Saléon, Guillaume Roux, Marion Lelay, Jean-Christophe Minaza, Xavier Pestugia qui réalisait l'émission, Muriel Pérez pour sa programmation musicale, et Anne Gouzon donc, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour.